Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capernaum, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulaient donc le prendre aussitôt dans le bateau qui touche à terre, là où ils allaient.
Est-ce qu'il faut prendre au sérieux un récit tel que celui-ci ? Jésus qui multiplie de la nourriture pour une foule, à la base, 5 pains, 2 poissons. Jésus qui marche sur l'eau. N'est-ce pas le genre de texte sur lequel on a tendance à plaisanter ? Je n'ai pas pu la retrouver, mais je me souviens, il y a des années en arrière, une publicité où on plaisantait sur le fait que du pain était multiplié. Ou par exemple, cet homme à Londres qui est un magicien et qui fait semblant de marcher sur l'eau. Est-ce qu'on n'a pas affaire ici à un récit qui est de la légende, quelque chose qu'on a voulu écrire pour que d'autres y croient ? Et si on affirme au contraire qu'on a là quelque chose d'authentique et de vrai ? On entend déjà la question qui serait rétorquée, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ? Qu'est-ce qui vous prouve que c'est vrai ? On pourrait répondre de différentes façons à cette question, mais une des manières, ça serait tout simplement de répondre, mais est-ce que c'est comme ça qu'on travaille avec l'histoire ? Est-ce qu'on la démontre ? Est-ce qu'on la prouve ? Comme une loi physique ou comme une réaction chimique ? L'histoire ne se prouve pas de manière scientifique, avec une méthode, soit empirique ou expérimentale. Non. On la démontre pas de cette façon. Il faut des témoignages, à la limite des découvertes archéologiques. Mais la vaste majorité des choses que l'on croit au sujet de l'histoire, elles sont basées sur des témoignages, justement. Témoignages écrits, témoignages oraux, mais c'est bel et bien des témoignages. Non, on ne peut pas prouver que ces miracles aient lieu. On ne peut pas les prouver de manière scientifique. Mais ce n'est pas de cette façon que l'histoire fonctionne, comme on l'a dit. Et la question qui a le plus de sens, c'est à quel point est-ce que les auteurs des évangiles sont fiables dans leurs témoignages ? À quel point est-ce qu'ils sont fiables ? Peut-être on pourrait prendre la thèse selon laquelle ici on a affaire à un récit justement qui est inventé, monté de toutes pièces. Déjà, il y a une difficulté, c'est que ce qui serait le plus proche pour nous, ce serait le roman réaliste où on met des détails comme l'herbe, comme l'orge, les pains d'orge, etc. Tous ces détails-là, ça correspond à un style comme le roman réaliste, mais un style qui n'existait pas à cette époque-là. Il faut attendre le 18e, 20, le 19e pour avoir ce genre de rédaction. Mais au-delà, il y a aussi tous les textes plus tardifs qui vont revenir sur les événements, les paroles de Jésus, mais on remarque là justement que c'est détaché de tous ces détails du récit qu'on trouve justement dans les quatre évangiles. Il y a très peu d'éléments dans les textes apocryphes. Regardons ici, avec cette thèse à l'esprit, ici on a un auteur qui nous invente un récit. Jusqu'à quel point est-ce qu'il va avoir des éléments qui vont sonner juste, référence à la météo, à la géographie, la politique, la topographie, la nourriture. Et en plus, il faudrait comparer avec les trois autres évangiles pour voir si ça sonne juste avec eux. On ne va pas le faire pour tout l'évangile, mais ne serait-ce que pour ce récit. Remarquez pour commencer que Jean nous donne le long du lac ou de la mer, de Galilée, et il précise la mer de Tibériade, pour les lecteurs du moment qui seraient plus familiers avec le deuxième nom lié à la ville de Tibériade, proche qui est de cette mer et portant le nom de l'empereur romain. Marc mentionne que beaucoup allaient venaient, mais il ne nous dit pas pourquoi. C'est Jean qui nous dit que la fête de la Pâque était proche et ça explique le va-et-vient, les nombreuses personnes qui vont se rendre à Jérusalem pour la fête la plus importante. Jean nous dit que Jésus demande à Philippe où il est possible d'acheter du pain. Pourquoi Philippe? Et pourquoi est-ce que c'est André qui vient avec une proposition? Si on lit simplement Jean, bah c'est simplement à eux qu'il l'a fait. Mais Luc nous dit que le miracle a eu lieu près de Bethsaïda. Et le début de l'évangile de Jean nous dit que Philippe et André sont tous les deux de Bethsaïda. Si on lit un seul évangile, on dira simplement qu'il y a des éléments incomplets. Mais quand on les place ensemble, on remarque qu'il y a une complémentarité dans les témoignages. Et on pourrait le faire avec des détails qui paraissent encore plus insignifiants. Marc dit que l'herbe était verte. Jean nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbe. Et le moment, c'est le moment de la Pâque. On est donc mars, avril, une des périodes de l'année qui a eu les 6 mois de précipitations les plus importantes dans la région de Tibériade. Ça colle. Comment Jean peut-il affirmer que c'était 5000 hommes? Après tout, avec les manifestations qu'on a eues, le comptage, c'est toujours un problème, non? Luc, Marc nous disent que Jésus demande aux disciples de faire des groupes de 50, de 100. Au grand maximum, par disciple, s'ils sont 12, c'est 9 groupes. C'est à la portée d'un collecteur d'impôts quand même, de compter jusqu'à 9. On ne peut pas prouver que ces textes ou que ces miracles ont eu lieu. Non, on ne peut pas le prouver. Mais il y a bien des éléments qui montrent que les auteurs des évangiles sont fiables dans le détail. Et s'ils sont fiables dans le détail, est-ce qu'ils ne seraient pas fiables lorsqu'il s'agit de quelque chose d'encore plus spectaculaire, d'encore plus important ? Si les auteurs sont crédibles dans le détail, on peut légitimement penser qu'ils le sont sur des questions aussi importantes que des miracles. On va voir en 2 points ce texte, le rappel d'un glorieux passé et la surprise d'un dépassement. On voit ici 2 des miracles probablement les plus spectaculaires de Jésus. Multiplication de la nourriture pour une foule, Jésus qui marche sur l'eau. Et si on pense à une personne qui a des pouvoirs tels que ceux-là, on se dit, comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'on veut le propulser tout en haut, faire de lui un prophète, un roi, versets 14 et 15. Quelle va être la réaction de Jésus? Il se retire. Il se retire seul, il refuse de les suivre. Notre perception, on réalise, elle est importante dans le christianisme, la perception qu'on a de Jésus. C'est même ce qui est central, notre manière de voir Jésus est ce qui est déterminant, le positionnement qu'on a vis-à-vis de lui. Et je vous suggère ici qu'il y a ici quelque chose d'important dans le rappel d'un glorieux passé, mais il faut voir plus et il y aura un dépassement, une surprise dans le dépassement de ce qui est relaté ici. On commence avec le rappel d'un glorieux passé. Il y a les signes d'une certaine excitation, un peu comme si on se retrouvait dans les conditions de quelque chose qui rappelle des souvenirs. En 2012, vous voyez les deux lieux qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces deux lieux au moment de la campagne? Eh bien, un des candidats, François Hollande, a choisi la Bastille pour un de ses meetings. Nicolas Sarkozy, lui, a choisi la Concorde parce que pour tous les deux, ça rappelle des souvenirs. Bon, c'est là, pour la Bastille, que se font les manifestations pour la gauche. C'est aussi là que Mitterrand a célébré sa victoire. La Concorde, c'est là où Nicolas Sarkozy avait célébré sa victoire en tant que président. Et ça rappelle aussi d'autres rassemblements là. Dans notre texte, ce n'est pas tant le lieu, mais le moment qui rappelle un glorieux passé. La Pâque approche. La fête juive la plus importante, celle qui est au cœur de l'histoire du peuple hébreu, un peu comme le 14 juillet pour les Français. Sauf que le parallèle, il est encore plus fort, comme on va le voir. Quelles étaient les circonstances de la première Pâque? La première Pâque, elle se déroule des siècles plus tôt, entre 12 et 14 siècles plus tôt, au temps de Moïse. Et alors qu'ils sont en Égypte, esclaves, ils vont célébrer dans chaque foyer la Pâque avant d'être délivrés de cet esclavage. Dans les décennies qui ont suivi, si on avait demandé à un Hébreu moyen, malheureusement on n'en a pas un sous la main, mais si on avait demandé à un des membres du peuple hébreu quels étaient d'après toi les miracles les plus spectaculaires durant cette période, probablement il aurait dit quoi? La traversée de la mer Rouge. Probablement il aurait dit le don de la manne dans le désert, ça c'était spectaculaire. Ouais. On ne l'a pas sous la main, donc on ne peut pas vérifier, mais probablement dans les miracles les plus spectaculaires, il y avait cela. Délivrance accordée à Dieu par la traversée de la mer Rouge et en même temps, provision dans le désert. Signe fort de providence et de protection. Et qu'est-ce qu'on trouve ici? Jésus qui nourrit une foule importante, qui a faim. Jésus qui marche sur l'eau d'un bout à l'autre. Et Jésus n'est pas en train de faire des miracles au hasard, comme s'il avait le choix entre faire décoller un chêne et le placer sur orbite, ou multiplier des pains et des poissons. Allez, je vais choisir le second. Non, il a véritablement conscience de ce qu'il est en train de faire, et ça se voit dans la question. Alors qu'il sait déjà ce qu'il va faire, au verset 5, il pose la question à Philippe. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Étrange similitude avec Moïse qui posait des siècles plus tôt la question « Où trouverais-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens ?» Et au-delà de Moïse, il y a le rappel d'Élisée en 2 Rois 4 qui multiplie des pains pour, pas des milliers, mais une centaine de personnes. Et là, comme un petit garçon dans notre histoire qui vient avec André, il y a quelqu'un qui amène des pains et un serviteur qui va les distribuer, 100 personnes présentes. Hilaire de Poitiers, un théologien du IVe siècle français, fait remarquer que le chiffre des paniers de reste n'est probablement pas un hasard non plus. Il y a combien de paniers? 12. Comme si la providence, la provision suffisait pour les 12 tribus d'Israël. Est-ce que c'est simplement les lecteurs des siècles suivants qui ont vu ces parallèles et qui ont constaté cela? Ou est-ce que les premiers témoins ont vu ces parallèles? On va le voir dimanche prochain. C'est sûr, les gens n'ont pas tout compris ce que Jésus disait. Il y aura des malentendus, des incompréhensions. Mais là, pour les parallèles, pour le coup, là, il n'y a pas de doute. Au verset 14, c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Une allusion à une parole que Moïse lui-même a prononcée, Deutéronome 18. « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. » C'est Moïse qui parle. C'est lui que vous devrez écouter. Et compte tenu du moment, il voit en lui plus qu'un prophète, il voit un roi, il voit un libérateur. Si Moïse a pu être celui par lequel le peuple a été libéré de l'esclavage en Égypte, Est-ce qu'on n'a pas là le prophète par qui nous pourrions être libérés du joug romain? Il y a cette attente. Après tout, c'est comme le 14 juillet des Français, le 4 juillet des Américains, et Stephen n'est pas là ce soir, mais j'allais le dire le 12 juillet pour l'Irlande du Nord, la bataille de la Boyne. Mais en temps de crise, ça rappelle des souvenirs patriotiques. Mais Jésus se retire. Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Quant à la traversée de la mer de Galilée, alors que Jésus s'est retiré pour prier, les disciples se rendent en barque de l'autre côté de cette mer. Et Jésus, lui, peut traverser d'un bout à l'autre. Les disciples doivent, eux, ramer, arriver jusqu'au bout. Mais lui, il traverse d'un bout à l'autre. Ils sont terrifiés, pas à cause de la tempête, à cause de Jésus. Au point où il doit leur dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Et leur peur est calmée. Et là encore, ça rappelle des souvenirs du moment où tout le peuple se trouve devant la mer Rouge et il y a cette crainte, cette peur, et Moïse qui doit dire « n'ayez pas peur ». Qu'est-ce qu'on doit retirer de ces rappels du passé? Dans un premier temps, on a tout simplement envie de s'émerveiller de cette récurrence, de la fidélité de Dieu. Il est le rocher des siècles qui témoigne de sa providence et de sa protection à travers l'histoire. Prenez par exemple le psaume 107 qui rappelle ce genre de situation. Et un refrain qui revient à quatre reprises, c'est « Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. » Deux morceaux choisis par rapport à la faim et au dénuement. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans retrouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Et plus loin, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Combien dans l'histoire on peut expérimenter sa providence, son intervention? Et par rapport à la tempête, au verset 23, ceux qui étaient partis en mer, sur leur bateau, ils travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. 30, ils se sont réjouis de ce qu'elles étaient, s'étaient apaisées. L'Éternel les a conduits au port désiré. Ce matin, on a célébré le baptême d'une personne qui a parlé de son parcours, d'un long temps de désert qu'elle a traversé. Et à un moment particulier où elle se sentait au plus bas, au plus au fond du gouffre, elle a écouté une chanson qui s'intitule « Prends ma main et marche », qu'elle a écoutée à bon nombre de reprises et qui ont été pour elle l'occasion de réaliser que Dieu est bel et bien présent, que Dieu est bel et bien prompt à pardonner ses erreurs, ses péchés, ses doutes. Témoignage de fidélité dans sa provision, dans sa protection. Mais si on en reste là, on manque quelque chose dans ce texte. Parce qu'il y a la surprise d'un dépassement. La surprise d'un dépassement. Alors maintenant, je vais vous poser la question, qui vous voyez sur cette image? Vous allez lever la main si vous voyez une vieille femme. D'accord? Qui voit une jeune femme? Qui voit les deux? En travaillant un peu, la jeune femme, elle est tournée dans ce sens-là, et la vieille femme, elle est de profil comme ça. Dans ce texte, il y en a deux heures plus tard qui seront encore en train de chercher le... Alors moi, j'ai pu m'exercer. Moi, j'ai eu tout le temps pour m'exercer. S'il y a le rappel d'un glorieux passé, il y a plus dans cette image et dans ce que Jésus dévoile. Alors, on va reprendre depuis le début. C'est rassurant, hein? On recommence la prédication. Non, ne vous inquiétez pas. On va relever certains éléments, mais en repassant ce texte. Qu'est-ce qu'il fait Jésus quand il voit cette foule arriver? Il nous a dit qu'il sait très bien ce qu'il va faire à l'avance, mais il va quand même s'adresser à Philippe. Et il est dit qu'il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Il savait très bien ce qu'il allait faire, mais il veut mettre à l'épreuve Philippe. Intéressant quand on y pense, il voulait le mettre à l'épreuve. Prenez par exemple le livre de Deutéronome, de nouveau, Moïse 8, chapitres 2 et 3. Dans le désert, Dieu veut leur dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respectais ou non ses commandements. Et la suite du verset 3 montre que ce qu'il voulait leur enseigner, c'est que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dieu sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il nous fait passer par l'épreuve. Jésus sait très bien ce qu'il fait lorsqu'il fait passer par l'épreuve. Il nous pousse à comprendre les défis et il nous pousse à voir nos limites et il nous pousse à dépendre de lui, de sa parole. Un autre élément, n'est-ce pas remarquable de voir que les gens reconnaissent en lui le prophète attendu? Après tout, ils ont fait lien avec Deutéronome 18. Et que dire de la reconnaissance d'un roi? Ils ont vu la portée messianique, toutes les promesses liées à un messie. Mais Jésus se retire sur la montagne. Et c'est l'occasion de nous poser la question: qu'est-ce qu'on voit en Jésus? Un enseignant, un philosophe, un révolutionnaire, un conseiller, quelque chose, quelqu'un qui va nous faire du bien, un homme de réforme, un prophète, un roi? Ils veulent proclamer un roi, mais ils font pression sur lui pour en faire un roi. Autrement dit, ils ont certaines catégories dans le type de prophète, dans le type de roi qu'ils attendent. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Mais la question qu'ils doivent se poser, que nous devons nous poser, c'est: est-ce qu'on est prêt à entendre Jésus jusqu'au bout? Un roi, c'est quelqu'un qui est appelé à régner, mais est-ce qu'on est prêt à reconnaître la nature de son règne? Son entrée dans le règne, elle ne va pas se faire par l'épée, la force. Comme le dit un théologien, Jésus n'est pas allé à Jérusalem pour brandir la lance et apporter le jugement. Il est allé à Jérusalem pour être transpercé par une lance et supporter le jugement. Son règne, il débute avec une élévation, mais sur une croix, avec une couronne d'épines. Et toute la parodie qui précède, on le couvre d'un manteau de roi, on lui donne un sceptre. Mais c'est bel et bien lui le roi. Il est en même temps le serviteur souffrant et le roi. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre jusqu'au bout? Et dans ce dépassement, il y a encore la traversée de la mer de Galilée. Dans l'Ancien Testament, la mer, c'était le symbole du chaos et du désordre. On le voit chez Job, dans différents psaumes. On le retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est compréhensible dans un sens, à la différence d'un sol. La mer, c'est instable, il y a cette incertitude. On n'est pas sur la terre ferme. Comment s'est faite la traversée du peuple hébreu au temps de l'Exode? La mer s'est ouverte. Ils peuvent marcher sur terre ferme pour traverser. Ici, Jésus traverse à la surface. Et pas une mer docile et calme, c'est la tempête. Autrement dit, il peut passer sans la moindre peine. La peine, c'est ce qui est dit chez Marc au sujet des disciples qui avaient de la peine à ramer. Lui, sans aucun effort, il traverse cette tempête. Et la scène est telle que les disciples ont peur en le voyant. Pas peur de la tempête, c'est Jésus qui leur fait peur. Et qu'est-ce qu'il leur dit pour les rassurer? C'est moi, n'ayez pas peur. Littéralement, je suis. Et ça pourrait sembler insignifiant comme parole si on n'était pas dans le contexte de l'évangile de Jean, où ces paroles sont les moyens de dire la divinité de Jésus. Ce sont ces mêmes mots qui font dresser les cheveux sur la tête des responsables religieux qui veulent le lapider. Et pourquoi? Parce que ça fait référence à la façon dont Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Je suis celui qui est, Yahweh, celui qui existe de manière indépendante et plus que cela encore, celui qui soutient tout par son existence même. Alors, quelles implications ? Jésus n'est pas simplement le parallèle des grands moments dans l'histoire, il est celui par qui l'existence de l'histoire est possible. Jésus n'est pas simplement la manifestation de la providence de Dieu. À tel moment dans l'histoire, c'est lui le Dieu créateur et immanent qui soutient tout. Il n'est pas simplement celui qui peut pourvoir à nos besoins. Il est celui vers qui toute nourriture pointe. Il est la parole. Jésus n'est pas simplement celui qui nous protège. Il est la résurrection et la vie. Jésus n'est pas simplement celui qui nous accompagne dans la tempête. Il est celui par qui tous les éléments existent. Jésus n'est pas simplement le roi libérateur attendu, il est le roi serviteur souffrant. William a lu tout à l'heure un passage dans le livre de Jonas. Et c'est intéressant de voir que Jésus fait référence à Jonas aussi. Dans Matthieu 12, il fait référence à ce signe, ce miracle pour les responsables religieux. On se souvient que Jonas, lui, a vécu cette tempête, il est jeté à la mer. On a lu les paroles qui disent la délivrance qu'il a connue. Et Jésus fait référence à lui-même en disant qu'il va lui aussi passer par là. Si il traverse la tempête sans aucune difficulté, il va bel et bien encaisser une tempête et aller au fond, au plus bas. Il va connaître la mort, le jugement, et à la différence d'un Jonas qui était coupable, lui, il est innocent. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Parce qu'il est certain que c'est de cette façon que nous pourrons être épargnés du jugement que nous méritons. Il y a donc plus en Jésus que simplement un faiseur de miracles. Il y a celui qui nous permet d'être protégés, d'être gardés du jugement de Dieu sur notre vie, d'être au bénéfice de son pardon. Que Dieu nous accorde la grâce de nous reposer en lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu vois qu'on se contenterait bien de voir dans tel ou tel récit, un Jésus qui est à un moment donné dans l'histoire, celui qui pourvoit tel ou tel besoin, mais qui de toute évidence n'est pas là avec nous. Au contraire, Père, tu nous permets de voir qu'il est celui par qui toute chose existe, qui sait tout, qui voit tout, qui est au cœur de l'existence même. Et nous te prions, chacun d'entre nous, dans nos circonstances, que tu nous accordes la grâce de la confiance en lui, dans sa providence, dans sa protection. Accorde-nous de témoigner de notre confiance en lui. Accorde à ceux qui doutent ici d'être fortifiés, relevés. Accorde à ceux qui passent par l'épreuve et qui ne voient pas le bout de savoir que Jésus est maître des circonstances. Accorde à ceux qui sont conscients d'un péché, d'une offense qui semble impardonnable. Rends-les conscients, Seigneur, que ce jugement est retombé sur ton propre Fils et qu'ils sont épargnés dans la foi en Jésus. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.